Et voici le gourdin ensanglanté qui a servi à la tuer. Voilà. Vous pouvez le toucher, allez-y, marche plus.
RTL.
Un homme a tué un autre homme.
Qui en plus est une femme.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé. J'appelle ce quelque chose un crime.
Sidonie Bonnec.
Crime.
Thomas Hugues.
Alors nous, on essaye de lancer l'émission sur une thématique sérieuse, la mafia, attention, badaboum, badaboum. Et François Touchard, notre réalisateur, nous envoie un extrait de... Voilà.
Ouais, mais j'ai mis une musique qui fait peur.
Ouais,
c'est
ah oui,
vrai,
quand
c'est
même.
Bien. Film
mais
Lala
le gourdin
Chabat
ne marche plus quand même.
Et donc le premier crime avec un gourdin qui ne marche plus. Bonjour Gaëlle Renouvelle, bienvenue.
Bonjour, bienvenue chez nous.
Heureux de vous retrouver, vous êtes journaliste au magazine Ça m'intéresse histoire. Vous publiez en partenariat avec RTL un dossier, et c'est sérieux, sur l'influence de ces sociétés du crime. Ma première surprise, ça a été leur nombre. Il en existe combien aujourd'hui? Puis on peut même aller plus loin sur le business que ça représente, les bénéfices.
Alors c'est un gros business qui implique beaucoup de personnes, hein, puisque selon Europol, il existe plus de 5000 de ces sociétés du crime qui génèrent un chiffre d'affaires de 870 milliards par an. Ça veut dire que si elles étaient un État, elles siégeraient tranquillement au G20.
Ah oui, dans les 20 pays plus puissants, les plus riches de la planète.
Mais est-ce que la justice tente de les démanteler, ces sociétés du crime?
Oui, mais évidemment, il y a une lutte acharnée contre ces mafias.
Et une opération d'envergure d'ailleurs qui a eu lieu en décembre dernier.
Exactement. Il y a 3000 policiers italiens, donc c'est vraiment un gros coup de filet qui a arrêté 300 personnes qui appartiennent à la mafia calabraise. Ce qui est hallucinant, c'est que parmi ces mafieux, hein, ces 300 personnes, il y avait des hommes politiques et également des avocats.
Oui, parce que votre dossier dans Ça m'intéresse histoire, c'est vraiment sur mafia et politique, l'influence
Exactement,
de ces
ouais.
sociétés du crime, où on découvre déjà une organisation. Ça, c'est ce qui est passionnant. La mafia italienne, notamment, elle est très structurée. Alors, le parrain, ça existe toujours, c'est le grade le plus élevé, on
Tout
l'imagine. Et ensuite, il y a quoi, alors?
Alors, effectivement, on a le parrain qui est un peu le chef suprême de cette famille. Hein, c'est Don Corleone, Marlon Brando, évidemment, dans le film de Coppola. Le parrain, il a une sorte d'éminence grise, qui est le consigliere, bon, conseiller, hein, qu'on peut comprendre, qui lui n'a pas une fonction de commandement, mais qui va le conseiller. C'est souvent un ami d'enfance ou un juriste.
Donc il n'est pas censé prendre la place du parrain.
Exactement.
C'est rassurant pour lui.
Voilà, c'est ça, c'est rassurant. C'est vraiment, il peut compter sur lui. En dessous de lui, on a le sottocapo, qui est le sous-chef. Souvent, c'est le petit jeune prometteur qui doit succéder au parrain une fois que le parrain disparaît, de mort naturelle, on espère pour lui. Ensuite, on a les... C'est pas souvent le cas, c'est vrai.
Voilà,
et en dessous, on a les capis qui seraient l'équivalent d'une entreprise des cadres, cadres dirigeants.
D'accord.
En dessous, on a les soldati, qui sont, comme leur nom l'indique, les hommes de main qui vont exécuter toutes les bases d'œuvres. Et c'est là qu'on voit que la corruption est partout. On a aussi les associés. Les associés, ce sont les policiers et les juges véreux.
Ah oui, et les affranchis, alors, ils font partie de l'organigramme aussi ou
Oui, tout à fait, ouais, c'est ça.
Le mot mafia, est-ce qu'on sait quand il apparaît et ce qu'il veut dire?
Alors, l'étymologie est assez floue. On pense que ça désignerait au départ un groupe des hommes en fait dangereux, assez bravaches, assez vantards. Mmh. Donc, on peut retrouver des similitudes avec les mafieux, effectivement. Ce dont on est sûr, par contre, c'est qu'il a été utilisé avec le sens qu'on lui donne actuellement, donc de société du crime, en 1865, dans un rapport du préfet de Palerme qui est évidemment un haut lieu de la mafia.
Et dans ces personnages, évidemment, il y a un certain Lucky Luciano. C'est l'histoire d'un des chefs mafieux les plus connus.
Ouais.
Et c'est d'abord une histoire de rêve à l'américaine. Où naît-il le 24 novembre 1897 ?
Alors, le petit Lucky Luciano naît en Sicile, près de Palerme. Là encore, on est vraiment au cœur de la mafia, dans un village de 6000 habitants qui s'appelle l'Ercara Fridi.
Et donc, il y a un rêve américain qui est porté par qui? Par le père,
par
d'abord?
Par son papa. Effectivement, son père est un mineur très pauvre. Et comme beaucoup d'Italiens à l'époque, surtout en Sicile, son rêve, c'est les États-Unis. Il se dit qu'il peut là, il pourra donner une vie meilleure à sa famille. Le problème, c'est que ça coûte très cher, la traversée, on peut l'imaginer. Donc, ce brave papa, il va économiser chaque sou qu'il peut mettre de côté. Il va les cacher dans une jarre sous le lit. C'est vraiment son trésor. Et enfin... enfin, son rêve se réalise en 1906, quand la famille Lucania prend le bateau pour New York.
Mais parce que son vrai nom, c'est Salvatore Lucania, futur Lucky Luciano.
Exactement.
Est-ce que, voilà, je l'imagine assez peu bon élève. Il va basculer assez vite dans la délinquance, c'est ça?
Tout à fait. En fait, il arrive, il a presque 10 ans quand il arrive aux États-Unis. Un an plus tard, il est arrêté pour vol à l'étalage, donc ça va assez vite, sa carrière de début dans le crime. Alors, il a bien tenté hein, quand même une vie honnête, donc il a arrêté l'école à 14 ans, et il a été un temps livreur de chapeaux. C'est un métier original. Sauf qu'il s'est vite rendu compte que ça rapportait pas beaucoup et que les trafics allaient être beaucoup, beaucoup plus lucratifs pour lui.
Quand est-ce qu'il décide de se faire appeler Lucky Luciano?
Alors, on pense qu'il aurait, la légende raconte en tout cas qu'il aurait, pris ce surnom en 1926, car il arrive par miracle à survivre à un passage à tabac, comme les mafieux savent le faire, complètement ultra-violent, et il arrive à s'en remettre.
Et Lucky, ça veut dire chanceux.
Exactement, bien sûr.
Alors, on est dans la période de la prohibition, hein, c'est janvier 1920, il va faire fortune grâce à la prohibition, on va avancer un peu dans le temps jusqu'en mai 1929. Là, on est à Atlantic City, qu'on surnomme la cité des plaisirs. Lucky Luciano, il a donc 31 ans, et il a invité une cinquantaine de caïds qui sont venus d'un peu partout en Amérique.
C'est un séminaire, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut leur proposer?
Alors, il veut moderniser la mafia, parce que le Lucky Luciano, il a 30 ans, enfin il a 31 ans exactement, et il pense que la mafia peut prendre un nouveau visage. Il trouve que la mafia s'est trop reposée sur la prohibition. C'est bien, c'était un bon business, mais il sait que ça ne va pas durer éternellement. Et il a tout à fait raison, puisque 4 ans plus tard, ça va être la fin de la prohibition. Donc comme c'est vraiment un bon businessman, il a déjà un autre débouché à leur proposer. Et il se dit, pour l'instant, la drogue s'est tenue par les Asiatiques, ça suffit. On va leur prendre ce marché et la drogue, ça va être nous. Mais pour ça, il faut qu'on se réorganise et qu'on devienne une entreprise moderne, comme vous le disiez avec ce séminaire.
Ouais, et il va jouer sur la bagarre entre deux chefs de la mafia qui s'appellent Maranzano et Masseria. Il va les affaiblir.
Comment,
quand est-ce qu'il devient le chef de tous les chefs, le grand chef, Lucky Luciano?
Ça va assez vite, hein, puisque c'est le 10 septembre 1931, donc très peu de temps après ce séminaire. Il a réussi à éliminer les deux de la vieille garde, on va dire. Et maintenant, ça y est, c'est lui le parrain des parrains.
Et il devient un chef d'entreprise.
T'as pas l'air tarte avec ton pied comme un ballon de foot, putain. Il est deux fois plus gros que ta tronche.
On t'a jamais dit d'aller te faire foutre, Tommy.
Oh. La curiosité est un vilain défaut.
Dehors, les oreilles qui décollent. C'est pas vrai, Spider, t'as pas pu dire ça. Tu vas pas le laisser s'en tirer comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où va le monde.
RTL.
Voilà, ça vous y va le monde? Ça te la coupe, hein?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je me foutais de ta gueule, putain, t'es taré, toi, tu le descends.
La vie quotidienne, tranquille, chez les mafieux des affranchis, film culte de Martin Scorsese avec Ray Liotta, Joe Pesci et évidemment Robert De Niro. Les sociétés du crime nous passionnent dans cette curiosité et on en parle avec nos partenaires du magazine Ça m'intéresse Histoire, avec la journaliste Gaëlle Renouvelle qui nous raconte, on parle des vrais mafieux et notamment l'un des parrains des parrains, c'est Lucky Luciano. Il devient le chef de tous les chefs de la mafia américaine en 1931 et à l'âge de 36 ans, il est quand même sacrément jeune, il est à la tête d'un business qui ressemble à une grande entreprise. Il la pense comme une multinationale du crime, c'est ça? Comment il organise son business?
Alors exactement, c'est vraiment un chef d'entreprise une fois de plus visionnaire, puisqu'il va se dire, je vais mutualiser les gangs. C'est-à-dire, la mutualisation est à la mode, et lui, il l'a déjà. En fait, avant, les anciens parrains italiens ne voulaient pas travailler avec la pègre juive et la pègre irlandaise.
Oui.
Ils étaient racistes, ils voulaient même pas apprendre l'anglais. Lui, il se dit, je vais travailler avec tout le monde. Il a d'ailleurs un slogan pour son entreprise, qui est une seule race, une seule religion, le fric. Ça le mérite d'être clair. Hein,
ça en jette, oui.
Le cadre stratégique est très clair. Du coup, il va donc mutualiser et il va doter son organisation, c'est comme ça qu'il appelle la mafia, avec des commissions. Et chaque commission va être dirigée par une sorte de grand directeur qui appartient aux plus grandes familles mafieuses. Et chacun va être chargé d'un secteur d'activité. Donc parmi les secteurs d'activité, on a le racket, la prostitution, le jeu.
L'alcool, la drogue.
Exactement.
Est-ce que Lucky Luciano, interdit ou donne un permis de tuer?
Alors, au contraire, il va plutôt essayer de dire à ses hommes, tuer le moins possible. Tuer, c'est du désordre pour le business, ça entrave les affaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt corrompre Les politiciens, les juges, les policiers qui pourraient entraver les affaires. Donc il a une sorte de caisse spéciale qui est gérée par Meyer Lansky. Meyer Lansky, lui, c'est un parrain de la mafia juive avec lequel Luciano a grandi. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui il se repose. Et Meyer Lansky, c'est vraiment un génie de la comptabilité. Donc il arrive à mettre au point du blanchiment d'argent à l'échelle internationale.
C'est lui qui invente ça.
Complètement. Ah oui. C'est grâce à... Enfin, c'est grâce où c'est lui
ou
qui met
cause.
Ça... Plutôt à cause, oui. C'est lui qui met ses petites astuces en place pour blanchir de l'argent discrètement.
Il vivait comment, Lucky Luciano? Dans le luxe, on l'imagine?
Évidemment. Faut quand même se souvenir, c'est un petit immigré italien, il est arrivé, il était très pauvre, sa famille a beaucoup souffert du manque d'argent, du coup, lui, il va se faire plaisir.
Ces marottes, oui?
Alors, ces marottes, c'est des choses assez banales, presque. C'est-à-dire, il va vivre dans des palaces, il va louer des appartements qui donnent sur Central Park, et il a une petite marotte personnelle, ouais. On va dire, c'est il a les caleçons de soie, il ne supporte que ça.
Ça doit être agréable. Vous avez déjà essayé, Thomas?
Oui, bien sûr. Je ne porte que des caleçons de soie. Ceci est un mensonge. Est-ce qu'il est mort dans son lit, tranquillement, ou comme beaucoup de mafieux? Après tout, ils ont vécu par la violence, ils meurent par la violence.
Alors, il est presque mort tranquillement, puisqu'il est mort d'une crise cardiaque en 1962 à Naples. Bon, on peut dire, comme tout businessman qui a été très stressé toute sa vie, la mort classique du businessman, non?
Voilà pour l'histoire de Lucky Luciano.
Autre société du crime, maintenant Gaëlle Renouvelle, qui prend sa source en France, oui. À Marseille. C'est la French Connection. Quelle mafia l'a créée, cette French Connection?
Alors, c'est la mafia corse. La mafia corse qui est installée à Marseille depuis le début des années du XXe siècle. Ouais. En fait, c'est des paysans corses, pour la plupart, qui ont été contraints d'émigrer, si on peut dire, sur le continent à cause de crises agricoles. Et là, ça a donné cette mafia corse.
Alors, cette French Connection, ouais. Là, on a jusqu'à 14h30 pour bien la comprendre. Qu'est-ce qu'elle, comment elle se crée? Quand est-ce qu'elle se met en place? Et c'est quoi surtout son business? C'est la drogue, mais quelle drogue?
Alors, elle se met vraiment en place, elle est vraiment structurée. Ça commence un peu avant, mais dès les années 30. Et son business, elle a vraiment un seul cœur de business. C'est la drogue, effectivement, mais pas n'importe quelle drogue. C'est l'héroïne. C'est la grande spécialiste de l'héroïne.
Là aussi, c'est un business international. Pourquoi on peut dire ça?
Complètement, parce que si vous voulez, l'héroïne, au départ, c'est de l'opium. Cet opium vient de Syrie, Liban, oui. Turquie. Mmh. Ensuite, il est amené donc à Marseille et dans toute la Provence, hein, dans toute l'arrière-pays. Là, il y a des labos clandestins qui synthétisent cet opium pour le transformer en héroïne. Et une fois que c'est devenu de l'héroïne, ça va être exporté notamment vers les États-Unis, vers les États-Unis.
Et maintenant, on va présenter les membres de cette French Connection. On commence par un personnage important, c'est Joseph Cesari. Quels sont ses métiers? Alors, il y a les métiers officiels, le métier officiel et les officieux.
Alors, officiellement, Cesari, il est éleveur de porc. Donc, c'est une couverture comme une autre. Officieusement, il est chimiste et c'est même une sorte d'artiste de la chimie, puisqu'il arrive à... On l'appelle Monsieur 98%. Alors, pourquoi ce surnom? Parce qu'il arrive à synthétiser une héroïne très, très pure. Elle est pure à 98%. Tandis que les autres, même les meilleurs chimistes de la French Connection, eux, sont à 70% au maximum.
Alors, on continue la galerie de portraits. Voici Édouard Rimbaud, un nom de poète, et un CV de voyou. C'est quoi son histoire?
C'est son vrai nom de famille, Rimbaud?
C'est son vrai nom de famille, puis il a un petit surnom, c'est Doudou, ouais. Pour Édouard, hein, bien sûr.
Il a l'air mignon comme ça, mais on va se rendre compte que
c'est moins mignon que ça. Voilà. Lui aussi, il a vraiment eu mille vies, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été résistant. Mmh. Il a été policier, donc ce qui est quand même assez... paradoxal. Il a écrit des polars, il a tenu une très belle librairie à Salon de Provence. Mais il a aussi été escroc et braqueur, et je pense que c'est ça qui a intéressé la French.
Et donc son rôle, c'était un braqueur, en fait?
Oui. Il s'est un peu rangé des voitures, c'est plus un commercial, si l'on peut dire, puisqu'il il sert d'intermédiaire, en fait, entre les vendeurs et les acheteurs. Et c'est lui aussi qui va se charger d'acheminer le cash vers la Suisse.
Alors, dans la French Connection, j'en parlais tout à l'heure avec Pascal Praud, il était très, très surpris et il se demandait qui ça pouvait être. On trouve aussi un chanteur des Yéyés.
C'est pas croyable, c'est formidable d'être accusé d'un truc qu'on n'a pas. parfait.
Qui est ce chanteur qui sera arrêté en 1971 avec près de 100 kilos d'héroïne dans ses valises?
John Cusack, de la DEA. C'est lui qui représente les États-Unis à Marseille.
Oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous.
En bien, j'espère.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous savez aussi que mon pays investit beaucoup d'argent pour stopper The French Connection.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Cette ville, je la connais centimètre par centimètre. Je me sens plus chez moi. C'est la French qui fait la loi.
Toujours avec nous Gaëlle Renouvelle, journaliste au magazine Ça m'intéresse Histoire, qui publie en partenariat avec RTL un dossier sur les sociétés du crime et la French Connection.
Un air lancinant qui brusquement vient glacer votre sang et vous étend ras des froids sur le sol d'un coup de dièse ou de bémol. Car ce tango.
C'est le tango de l'assassin et c'est donc un chanteur yéyé. Alors là, c'est pas le plus yéyé de ses titres, mais pourquoi on vous parle de lui? Parce qu'il était membre de la French Connection. Comment il s'appelle et quel est son job, Gaëlle Renouvelle?
Alors, il s'appelle Edmond Taillé. Effectivement, c'était un habitué de l'ORTF dans les années 60. Et son job, lui, c'était d'appâter des jeunes filles qui étaient un petit peu émoustillé par sa gloire de l'époque. Et il les recrutait en fait pour faire passer, elles servaient de mules pour faire passer la drogue. Ouais. Parce que des jeunes filles, c'est innocent, on ne les contrôle pas. Et aussi, il avait un ami, Johnny Hallyday, pour ne pas le citer. Ah bah, c'est la grande époque des yéyés. Ouais. Mais ce n'est pas un très bon ami, puisqu'il a profité d'une tournée de Johnny en Amérique du Nord dans les années 60, ouais, pour mettre dans ses amplis 40 sachets de 500 grammes d'héroïne. C'est énorme, pour passer comme ça en douce l'héroïne aux États-Unis.
Elle s'est terminée comment, cette histoire, Gaëlle Renouvelle?
Je pense bien.
Ah ouais, il n'a jamais... Ouais.
J'ai pas l'impression qu'il a été inquiété plus que ça, ni Johnny Hallyday, qui le pauvre n'était pas au courant. Voilà, exactement, le pauvre, il n'était pas au courant.
Mais on va faire la liste on continue la liste des membres de la French Connection. On va voir qu'ils se sont tous plus ou moins fait arrêter. Certains sont passés un peu entre les mailles du filet. Jean-Baptiste Cross, par exemple. Qui est-il, Jean-Baptiste Cross?
Alors, Jean-Baptiste Cross, c'est un Bastier. Donc, il est originaire de Bastia. Et lui, on peut dire que c'est un peu le parrain des parrains. C'est lui qui contrôle depuis les années 50 une grande partie du business. Lui, plusieurs fois, il est inquiété par la police, mais il arrive toujours à s'en sortir.
Est-ce qu'il y a des objets ou des accessoires indispensables quand on appartient à la French Connection? Comment on les reconnaît? Ou ils se reconnaissent plutôt?
le côté français, puisque pour faire passer notamment cette drogue, ils vont utiliser des DS.
Voiture, magnifique automobile.
Exactement. Qui a le grand avantage d'avoir plein de parties creuses dans lesquelles on peut dissimuler de la drogue.
Est-ce qu'il y a beaucoup de cahiers de la French Connection qui vont tomber quand même? Parce que
ouais,
c'est incroyable, quoi. Ils ont levé énormément d'argent, j'imagine. Ils ont eu du pouvoir et exercé ce commerce pendant combien d'années?
Ça a duré bien. La grande période, années 50-70. Et là, vraiment, ça a été... c'était le grand réseau de l'héroïne.
Et ça bascule au début des années 70.
Exactement.
Quand Richard Nixon aux États-Unis veut faire la guerre aux dealers d'héroïne.
Exactement.
Et demande à la France de faire ménage.
C'est ça. En fait, les deux côtés en fait, de l'Atlantique, on se dit, là, ça suffit. Mm. On va mettre fin à ce business-là. Et c'est l'hécatombe. C'est vrai que là, à ce moment-là, c'est le début de la fin pour la French.
Et alors, si on fait un peu la liste, donc on a parlé d'Edmond Taillé, donc qui sera arrêté en avril 71 avec quand même 93 kilos d'héroïne. Pour échapper à une peine de prison, il balance ses complices, il ne purge que 4 ans.
Donc c'est
voilà,
ça,
c'est
exactement.
Un sympathique personnage. Il y en a certains qui ont réussi à finir leur vie tranquille parmi ces membres de la French Connection?
Oui, y a Edmond Taillé qui a même écrit un livre sur ses aventures en 1977, The Real Connection. C'est pour ça qu'on connaît l'histoire de Johnny Hallyday. On a également notre ami Doudou, Édouard Rimbaud, qui lui aussi a balancé. Quand on est repenti, c'est quand même dangereux de revenir en France. Ouais. Donc lui, il continue à couler une vie qu'on imagine tranquille aux États-Unis, sous une fausse identité.
Ouais. Joseph Césari, dont on a parlé en début de séquence sur la French Connection.
Le chimiste,
il est emprisonné en 72 et lui, ça se termine très mal.
Oui, parce que lui, il ne supporte pas. En fait, il est condamné à 30 ans de prison. Visiblement, il ne balance pas ses petits camarades. Il se pend dans sa cellule en 1972.
Alors, c'est vrai qu'on plaisantait un peu sur le côté séminaire et compagnie, on compare ça à des grandes entreprises.
Oui, on peut même trouver ça romanesque d'une certaine façon.
D'ailleurs,
il
y a plein de films de fiction qui s'en sont emparés, notamment les Américains, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de violence, une violence où les crimes sont ritualisés avec une série d'idées absolument abominables. On peut parler, par exemple, du meurtre par ver de terre, ou en tout cas
la torture.
Le ver de terre.
Du ver de terre.
Je crois que c'est la victime qu'on surnomme comme ça.
Oui, c'est exactement la victime. En fait, le traître ou la personne qu'on veut éliminer est enterrée vivante. Donc, on imagine que pour essayer de s'en sortir, elle bouge comme un ver de terre, d'où le nom de ce supplice.
Autre crime, le mélomane. Alors ça, je ne le connaissais pas. Le ver de terre, j'en avais déjà entendu parler, mais le mélomane, c'est quoi ?
On va faire écouter, je ne sais pas, un disque qu'on déteste.
On peut en mourir, vous croyez ?
Oui, c'est vrai que c'est une méthode de torture, mais c'est encore plus violent que ça et plus rapide, en fait. On le prend par derrière avec une corde de piano qui est très solide et on l'étrangle, en fait.
Autre crime absolument horrible pratiqué par la mafia, le jus de crâne.
Je crains le pire.
Alors, le jus de crâne, oui, vous avez raison de craindre le pire, effectivement, puisque c'est tuer quelqu'un en lui mettant un coup de pique à glace dans le crâne.
Bon, ça ne faites rien que je ne ferai pas. La French Connection, on va terminer, elle a complètement disparu, parce que je crois qu'il y a quelques années, un ou deux ans, il y a un des anciens de la French Connection qui est réapparu.
Tout à fait, un certain Jean Guy, âgé de 80 ans, hein, puisque comme on l'a vu, c'est pas tout neuf la French Connection, et c'était un des derniers parrains qui effectivement s'est rendu. Après, quand on dit qu'elle a disparu, la French Connection, c'est sous la forme dont on a parlé, mais elle s'est renouvelée comme toutes les mafias, qui arrivent souvent à renaître de ses cendres, comme la pieuvre qui développe de nouvelles tentacules.
Et c'est à lire évidemment dans le magazine Ça m'intéresse Histoire. Il y a beaucoup d'autres histoires de mafia et notamment des liens entre mafia et milieu politique. C'est en partenariat avec RTL. Merci beaucoup Gaëlle Renouvelle. Il y a plusieurs articles qui étaient signés Véronique Chalmet d'ailleurs, que l'on salue.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.